Laudetur Jesus Christus.
Lutter contre la faim, le gaspillage, la pauvreté, le pape transmet sa préoccupation des plus démunis aux 20 dirigeants des principales économies mondiales. Un message lui hier soir dans l'enceinte du G20 à Rio. G20 tombé d'accord pour une paix juste et durable en Ukraine dans sa déclaration finale. Au millième jour de guerre dans le pays, témoignage dans ce journal du nonce apostolique à Kiev sur le chemin de croix d'une population épuisée avant de revenir sur les perspectives de paix dans notre dossier. L'aide humanitaire toujours entravée à Gaza, pillage de camions, perte de cargaison. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, décrit une horreur incessante. La colère agricole de retour en France à l'approche de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Agriculteurs rejoints par leurs voisins allemands, tandis que l'Italie rallie le refus français à soutenir le texte.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, le pape appelle le G20 à éradiquer le fléau de la faim et de la pauvreté. François, par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a adressé un message hier soir aux dirigeants du G20 actuellement réunis en sommet à Rio de Janeiro au Brésil. Outre ce défi colossal, 733 millions de personnes souffrent de la faim en 2023, 9% de la population mondiale. Le Saint-Père renouvelle aussi son appel aux grandes puissances à promouvoir une paix durable dans les zones de conflit. Xavier Sartre.
Ne plus investir dans les armes et réallouer ses fonds en faveur de la lutte contre la faim et la pauvreté. Le Saint-Père réitère cet appel au G20. Au-delà des guerres qui nourrissent ces deux fléaux, le paradoxe d'aujourd'hui est que plus de 3 milliards de personnes ne mangent pas à leur faim, alors que près de 2 milliards sont en surpoids ou obèses en raison d'une mauvaise alimentation ou d'une vie sédentaire, note-t-il. Le monde ne manque donc pas de nourriture, mais de juste répartition des ressources alimentaires. En cause, les injustices sociales et économiques. Or, l'acceptation silencieuse de la famine par la société humaine est une injustice scandaleuse et une grave offense, affirme le Saint-Père. Et de citer le catéchisme de l'Église catholique pour bien faire comprendre que ceux qui, par l'usure et la cupidité, provoquent la famine et la mort, commettent indirectement un homicide qui leur est imputable. Il faut donc agir de manière décisive et immédiate, en luttant notamment contre le gaspillage alimentaire, en réorganisant les systèmes alimentaires pour qu'ils soient durables sur le plan environnemental et bénéfiques pour les communautés locales. Communautés qu'il faut prendre en compte, en évitant ainsi une approche trop verticale qui ne ferait que favoriser les intérêts de quelques-uns. Pour cela, François place beaucoup d'espoir dans l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.
Xavier Sartre, dans leur déclaration finale hier soir, les pays membres du G20 se sont mis d'accord sur 4 points, dont cette alliance globale contre la faim, objectif du président Lula, mais aussi toute initiative constructive pour une paix juste et durable en Ukraine, un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, et autre idée du chef d'État brésilien, la taxe effective des personnes très fortunées. Aucune avancée en revanche sur les négociations climat. Le président américain a lui, dans la foulée, annoncé lundi soir une contribution historique de 4 milliards de dollars pour les pays pauvres sur 3 ans à un fonds de la Banque mondiale. 2 jours de sommet dans la capitale du carnaval pour les dirigeants des 20 principales économies mondiales et leurs équipes, ministres, conseillers, sherpas, arpentent les couloirs dans l'espoir de faire avancer leurs intérêts. Et c'est ainsi qu'hier a eu lieu en marge du sommet une rencontre très scrutée entre les chefs de la diplomatie chinoise et russe. Wang Yi et Sergueï Lavrov ont parlé de la guerre en Ukraine, de la situation dans la péninsule coréenne. La Chine s'est abstenue de commenter la décision de la Corée du Nord d'envoyer un soutien militaire à la Russie. Et traditionnellement allié diplomatique de Pyongyang, Pékin demeure sans voix face à ce rapprochement. Hier, la ministre russe des Ressources naturelles était reçue par Kim Jong-un. L'Ukraine qui marque un triste jour, 1000 jours de conflit, un cycle de mort et de destruction. Le président Zelensky, attendu au Parlement européen ce mardi, était sur le front est de son pays hier auprès des troupes dans le Donbass. L'Ukraine qui a subi le week-end dernier une attaque massive russe contre ses installations énergétiques, la forçant à annoncer des coupures dans l'alimentation en électricité, une première depuis des mois. 220 000 usagers sont d'ailleurs toujours privés à Odessa d'électricité. La réalité crue de la guerre fait que les Ukrainiens n'ont pas le temps de compter les jours ou les mois de celle-ci, nous explique le représentant du pape à Kiev, Mgr Visvaldas Kulbokas, nonce en Ukraine, revient sur les besoins essentiels des habitants.
Je ne rencontre pas beaucoup de gens ici qui comptent les jours de guerre. Les gens le font plutôt dans les autres pays ou sur des sites d'information pour des raisons statistiques. Au contraire, à Kiev, par exemple, nous sommes submergés par tant de problèmes que nous n'arrivons souvent pas à compter les jours ou les mois qui passent. Dans les régions autour de Kharkiv, de nombreuses personnes ont besoin de presque tout. Du bois pour le chauffage, aux produits d'hygiène, en passant par les vêtements pour l'hiver, l'eau et la nourriture. Je constate qu'il y a également des problèmes similaires dans la région de Zaporijjia. Idem dans la région de Kherson, les prêtres apportent de l'eau potable aux gens. Dans de nombreuses régions, l'eau potable est une denrée difficilement accessible. On a donc besoin d'un peu de tout. Et en revanche, les visites de groupes de prière ou de bénévoles sont toujours une source de joie, car elles permettent de croire qu'il y a de l'attention à l'international, de l'humanité, et cela donne de l'espoir. Le témoignage des volontaires et de ceux qui viennent ici crée un contraste en montrant qu'il y a de l'attention, du souci, de l'humanité.
Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican, Svitlana Dourovitch. Pas 1000, mais déjà 410 jours de guerre à Gaza et de nouveaux pillages de l'aide humanitaire. Hier, seuls 11 des 109 camions du convoi ont pu gagner l'entrepôt après être entrés dans l'enclave selon l'ONU. Perte des cargaisons, dégâts sur les camions. La distribution de l'aide est d'autant plus compliquée aussi pour l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés, dont l'interdiction entrera en vigueur en janvier. Et pourtant, il n'y a pas de plan B au sein de l'ONU à l'UNRWA, assurait hier depuis Genève le commissaire général de cette agence humanitaire onusienne, le diplomate italo-suisse Philippe Lazzarini.
I keep being asked why is the agency irreplaceable?
On me demande sans cesse pourquoi l'agence est-elle irremplaçable. En fait, elle serait remplaçable par un État qui fonctionne, par des institutions qui fonctionnent. Et pour cela, nous devons investir encore plus dans le processus politique afin de nous assurer que cette réalité sera la réalité offerte demain aux Palestiniens. Mais nous sommes aujourd'hui irremplaçables parce qu'il n'y a pas d'autre organisation des Nations Unies qui a été conçue pour fournir des services publics comme l'UNRWA.
To provide public-like services like UNRWA. So my message to the member state has also been: please make sure.
Mon message aux États membres a donc été le suivant: veillez à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Car si nous faisons cela et que nous ne disposons pas d'une alternative viable, nous créerons un vide. Nous priverons des centaines de milliers d'enfants du droit à l'éducation. En faisant cela, nous sèmerons aussi les graines pour plus d'extrémisme et plus de haine à l'avenir.
Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, en conférence de presse lundi à Genève. Et ce mardi, beaucoup d'espoir de paix converge vers un seul homme. L'émissaire américain Amos Hochstein est arrivé à Beyrouth pour peaufiner un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Une autre guerre, elle, sous les radars, celle qui ravage le Soudan depuis avril 2023. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelait hier à un arrêt immédiat des hostilités, mais s'est heurté au veto russe. Le mouvement catholique Pax Christi International exprime sa profonde inquiétude face à l'escalade de la violence au Soudan qui a déjà déplacé 11 millions de personnes, dont 3 hors du pays, et en a tué des dizaines de milliers d'autres. C'est le plus grand procès sur la sécurité nationale jamais organisé à Hong Kong. La justice du territoire semi-autonome condamne ce matin 45 militants pro-démocratie à de la prison ferme. Ils sont reconnus coupables de subversion. Certaines peines vont jusqu'à 10 ans d'incarcération. Condamnation américaine, australienne, taïwanaise et d'une cascade d'ONG de droits humains après ce verdict jugé autoritariste. Le réveil de la colère agricole, manifestation prévue à Londres contre une taxe des travaillistes. Aujourd'hui, hier en France, les agriculteurs exprimaient leur mécontentement vers le projet d'accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur. Des agriculteurs français rejoints par leurs collègues allemands pour bloquer le pont de l'Europe qui enjambe le Rhin et relie la ville de Strasbourg et l'Allemagne. Marie-Christine Bonzon.
Ce sont des centaines de tracteurs français et allemands qui ont bloqué hier le pont de l'Europe, un lieu emblématique où les représentants de syndicats agricoles français et allemands se sont donné l'accolade en solidarité contre un projet de traité qu'ils dénoncent comme une distorsion de concurrence, en particulier dans les secteurs de la viande bovine et du vin. Selon eux, le projet d'accord, qui est en négociation depuis plus de 20 ans, créerait des conditions déloyales parce que les denrées produites en Amérique du Sud ne répondent pas aux normes environnementales, sociales et sanitaires en vigueur en Europe. Les agriculteurs français ont le soutien de COPACOGECA, l'Organisation européenne des syndicats majoritaires, qui appelle l'Union européenne à revoir ce projet d'accord de libre-échange. Les agriculteurs français ont aussi le soutien de leur président. Emmanuel Macron, qui est en tournée en Amérique latine en ce moment, a en effet déclaré dimanche que Paris ne signera pas le projet d'accord en l'état. Monsieur Macron essaye de mobiliser l'Allemagne et d'autres pays de l'UE, puisque selon les règles européennes, la France pourrait bloquer un traité négocié par Bruxelles, à condition qu'elle ait l'appui d'au moins 3 autres pays membres de l'UE. Hier soir, c'est l'Italie de Giorgia Meloni qui a emboîté le pas à la France en déclarant qu'elle ne signerait pas le projet de traité controversé avec Mercosur. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
Ne nous rendons pas à l'inévitabilité de la guerre. Les mots sont du cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, aux médias du Vatican à l'occasion des 1000 jours de l'invasion russe de l'Ukraine. 1000 jours d'angoisse pour la population ukrainienne alors que près de 3 ans plus tard, le conflit s'est installé. Les combats sont quotidiens, l'hiver pointe et après des mois de gel diplomatique, les tractations semblent reprendre. En témoigne l'amorce d'une diplomatie téléphonique entre le chancelier allemand et le président russe ou l'autorisation des États-Unis pour l'Ukraine d'utiliser des missiles de longue portée contre la Russie. Comment expliquer cette accélération du calendrier? Quelles sont les perspectives de paix envisageables? L'analyse de Bernard Chapdelaine, ancien diplomate notamment à Moscou.
Oui, il y a certainement une accélération en vue de préparatifs de paix. Il y a à la fois la situation en Ukraine qui est quand même marquée par la lassitude de la population et aussi certainement de soldats. Il y a aussi les contextes intérieurs, notamment aux États-Unis, bien sûr, avec l'arrivée de la prochaine administration. Il y a aussi le contexte électoral en Allemagne avec les élections prévues en février prochain. Donc il y a une combinaison de facteurs qui effectivement font que la perspective de paix se rapproche, étant entendu qu'on voit mal comment un règlement de paix pourrait intervenir. Il s'agira sans doute plutôt d'une cessation des hostilités, en fait.
Dans ce contexte, est-ce qu'on peut imaginer une cessation des hostilités qui ne soit pas en défaveur de l'Ukraine?
L'Ukraine est forcément très dépendante des livraisons d'armes. Toutes les promesses n'ont pas été tenues. Je crois que l'administration Biden va essayer de livrer ce qu'elle avait promis. Mais le problème, c'est que les Européens, pour l'instant en tout cas, ne sont pas en mesure de se substituer en fait aux livraisons d'armes américaines. Il y a effectivement les conquêtes territoriales de la Russie. Alors il y a les différents scénarios qui avaient été imaginés, dont un est un scénario sur le modèle allemand, c'est-à-dire sur le modèle de l'intégration de la RFA à l'OTAN au milieu des années 50, à savoir que la communauté occidentale n'avait pas reconnu la RDA, mais donnait une garantie de sécurité donc à la RFA en l'admettant au sein de l'Alliance Atlantique. C'est un scénario qui avait été imaginé, mais effectivement avec la nouvelle administration de Trump, on voit mal comment ce scénario serait possible. Donc on en est plutôt réduit à des hypothèses qui rappellent la Corée en fait des années 50, donc il y a simplement une ligne de cessez-le-feu sans règlement politique.
L'avenir de l'Ukraine semble se jouer entre les États-Unis et la Russie. Finalement, qu'en est-il du poids des Européens dans ces différents scénarios de fin des hostilités?
Pour l'instant, ils ne pèsent pas beaucoup, notamment parce qu'ils pourraient difficilement se substituer donc aux livraisons d'armes américaines et aussi parce qu'ils ne sont pas vraiment unis. Dans ce sens, l'initiative du chancelier de reprendre contact avec Poutine peut avoir un avantage, c'est-à-dire d'essayer de susciter une discussion, en tout cas entre Européens, et éventuellement de mettre au point des propositions pour éviter que ce soit un dialogue uniquement entre les États-Unis et la Russie.
Dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, est-ce qu'ensuite l'essentiel pour l'Ukraine sera d'obtenir de la Russie des garanties de sécurité pour éviter l'ouverture d'un nouveau front en Ukraine dans le futur?
L'Ukraine aura du mal à obtenir des garanties de sécurité. La position constante de la Russie, c'est que l'Ukraine soit un État neutre. D'autre part, on voit mal aussi comment les États-Unis et l'Allemagne, en tout cas présentement, puisque le chancelier Scholz a aussi écarter l'idée d'une adhésion à l'OTAN. Donc, pour les Européens, ça serait vraiment un défi si ils pouvaient apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité indépendamment des États-Unis et de l'OTAN.
Interrogé par Marine Henriot, le chercheur spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, Bernard Chapdelaine était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité du pape, de l'Église et du monde revient dès 13h, heure de Rome. Belle journée.